on passe à l'histoire du monde. Éric Biégala, votre histoire est consacrée à un quasi monument du panafricanisme et du journalisme, le fondateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique qui vient de mourir.
Oui, jusqu'au bout, Béchir Ben Yahmed aura été fidèle à sa réputation de tête de mule. Touché par la Covid-19 à 93 ans, il n'en continuait pas moins à refuser systématiquement le port du masque, à serrer la main à absolument tout le monde et refusait mordicus la vaccination. Le virus l'a finalement emporté dimanche et avec lui a disparu l'un des derniers témoins des indépendances africaines et des années postcoloniales.
Et lui a toujours flirté avec la politique sans jamais y succomber.
Oui, le tout jeune député diplômé d'HEC et ministre de l'information du premier gouvernement Bourguiba en 56 en Tunisie. Et il vient de lancer parallèlement son premier news magazine, L'Action, avant de passer à Afrique Action, couvrant le Maghreb, puis à Jeune Afrique, s'élargissant à tout le continent. Il ne restera qu'un an dans le cabinet Bourguiba et des 57, c'est le journalisme qui demeurera sa seule occupation. Mais un journalisme surveillant de très très près les indépendances en train de se mettre en place, pacifiquement pour certaines, beaucoup moins pour d'autres, ainsi de l'Algérie. Jeune Afrique est d'ailleurs interdit en Algérie française, comme en France durant ces années-là. Béchir Ben Yahmed, à cette époque, rencontre et interview tous ceux qui comptent, de Frantz Fanon à Che Guevara, en passant par Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, Ho Chi Minh et même Jacques Foccart. Béchir se lira d'amitié avec la plupart de ces personnages.
Quelle est ou quelle a été la ligne éditoriale du journal ?
Eh bien, Jeune Afrique s'est positionné dès le début en défense de la démocratie et du multipartisme. À l'heure où les premiers régimes émergents des colonies françaises ne juraient, eux, que par le parti unique et la révolution. Jeune Afrique défend aussi thèses et principes pas franchement dans la ligne révolutionnaire anticoloniale. Sur Israël, par exemple, le magazine ne s'est pas montré aussi systématiquement pro-palestinien qu'il aurait pu l'être. Sur le Sahara occidental, il prend le parti marocain, s'attirant les foudres durables de l'Algérie, soutien des Sahraouis. Jeune Afrique se fait d'ailleurs assez rapidement interdire en Algérie pendant 20 ans, au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie et encore tout récemment au Congo.
Mais Jeune Afrique n'est pas toujours resté le parangon de vertu et d'indépendance qu'il entendait être.
Oui, Béchir Ben Yahmed a aussi accepté assez vite quelques accords douteux du point de vue de l'éthique contre espèces sonnantes et trébuchantes. Il est par exemple devenu l'éditeur en français des œuvres de Kim Il-sung, le premier de la dynastie des dictateurs nord-coréens dans les années 60. Et lorsque la crise a frappé le magazine en 94 suite à la dévaluation du franc CFA, la maison d'édition a accepté un discret renflouement par le régime tunisien de Ben Ali que Béchir Ben Yahmed épargne plutôt dans les colonnes de son journal. En fait, pendant des années, Jeune Afrique et Béchir Ben Yahmed se sont essayés à un exercice de corde raide, ménageant la chèvre souvent autoritaire des régimes en place et le chou des indispensables rentrées pécuniaires, publicité locale et vente du magazine. Le titre a tout de même réussi à maintenir une indéniable crédibilité au Maghreb comme en Afrique subsaharienne francophone. Reste à savoir si elle survivra au départ définitif de son fondateur.
Éric Biégala de la rédaction internationale de Radio France, votre histoire du monde est en ligne sur franceinter.fr. France Inter.